Je continue la série sur les ministères du chrétien. Parce qu'il y a des ministères de base qu'avant d'être prédicateur ou être évangéliste ou prophète, avant de se rendre dans ces ministères-là, Dieu s'attend à ce que ses enfants soient fidèles dans des petites choses. Puis il a confié des petites choses. Puis la Bible nous parle de ministère, comme de service, ou de... Appelons ça différemment, le mot ministère, là on voit ça comme un gros mot bien élevé. Le mot ministère veut dire service. Un serviteur. Fait que quand on voit ça en gros, ça veut dire servir les autres. Tu peux-tu avoir plus petit que ça? C'est parce qu'on voit à l'envers dans la pensée humaine le ministère de l'éducation, le ministre de la justice, mais c'est des serviteurs. C'est ça qui est le vrai sens du mot ministère. Mais Dieu, avant de confier des rôles de pasteur, prophète, évangéliste ou peu importe, il y a des ministères de base dans la vie de tous les jours. J'ai déjà deux ministères que j'ai expliqués dans d'autres leçons. Le ministère de prière, que tous les chrétiens sont appelés à prier. Il y a le ministère de louange. Tous les chrétiens sont appelés à louanger. Aujourd'hui, on va voir une autre forme de ministère, qui est une autre forme de service pour être un serviteur de Dieu, qui est pour tous les chrétiens. Un serviteur pour tous les chrétiens. Un serviteur dans la vie séculière. Quand on parle de vie séculière, c'est dans la vie de tous les jours. Hors de la vie religieuse, là, quand tu étais à l'église, ça c'est une chose. La vie séculière, c'est hors de la vie religieuse. La vie de tous les jours pour tous les chrétiens. Il y a un ministère là-dedans. Dieu s'attend pour tous les chrétiens qu'on puisse le servir, Dieu, dans notre vie séculière, dans notre vie de tous les jours, dans la société, dans notre vie qu'on a. On va voir dans plusieurs leçons dans ce sujet-là, ce soir, c'est dans la société. Comment est-ce que Dieu veut qu'on le sert dans la société en tant que chrétien? On va voir ce soir quelques règles de conduite, des règles bibliques de conduite pour les chrétiens qui veulent servir Dieu dans la société. Sans être un pasteur ou un missionnaire ou un évangéliste, même si tu n'as pas ces titres-là, tu as quand même un rôle de serviteur dans la société, c'est ton ministère. C'est un ministère pour tous les chrétiens. Dieu ne nous demande pas à ce qu'on devienne des ermites. La première chose qu'on doit mettre dans notre pensée. Parce que beaucoup de gens, quand ils deviennent, entre parenthèses, religieux, ils se retirent dans des monastères, dans des centres, dans des retraites. Puis là, ils sont comme renfermés à l'année longue pour prier. Ben, supposément prier, là. Mais ils ont leur vie normale, mais à l'intérieur d'un bâtiment religieux, ils sont comme déconnectés du monde. C'est pas à ça que Dieu nous appelle. Dans Jean 17, à partir du verset 16, Jésus nous dit, Jésus est en train de faire une prière à son Père, puis il parle de nous. Il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Là, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jésus, là, il fait le point dans notre nouveau rôle en tant que chrétien. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as été racheté, puis tu as été changé de camp. Tu faisais partie du monde des ténèbres, puis là, il t'a pardonné tes péchés, il t'a donné le Saint-Esprit, il t'a arraché du monde des ténèbres, puis il t'a transporté dans son royaume. Maintenant, tu es un habitant du royaume de la lumière, du royaume de Dieu. T'es entré dans le royaume de Dieu. T'es un participant au royaume de Dieu. Là, t'es plus du monde. Dans le sens propre du mot, même si on vit encore dans le monde, t'es plus du monde. T'es plus de ce monde. Comme Jésus a dit, moi aussi, je ne suis plus de ce monde. Mais, il nous dit, je les ai renvoyés dans le monde. Fait que là, on voit qu'est-ce qui s'est passé dans notre position, c'est que Jésus, il nous a rachetés, il nous a déracinés de ce monde, il nous a enracinés dans son monde, puis on est rendu du monde de la lumière, du monde de Dieu, puis on est du monde de Jésus. Puis là, il nous renvoie, aller, retourner dans le monde. Il nous renvoie dans ce monde pour aller faire une mission. Il veut pas qu'on pense en ermite. Il veut pas qu'on agisse comme si on a juste notre petite vie à faire dans notre maison ou dans l'église, puis que ça s'arrête là. Dieu nous envoie dans le monde pour qu'on ait un impact dans ce monde. Mais il nous demande, puis il demande à Dieu premièrement de nous sanctifier par la parole, de nous protéger, puis ainsi de suite, de nous garder. Mais dans un autre passage, quand Jésus envoie ses disciples, il leur demande d'être prudents. Dans Matthieu 10, 16, Jésus dit à ses disciples, « Voici, je vous envoie dans le monde, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Là, il nous envoie, mais il nous dit, « Faites attention. » C'est plein de loups autour.
Ouais,
c'est plein de loups, c'est plein de lions, c'est plein de méchanceté, c'est plein de convoitises qui peuvent te dérouter, c'est plein de tentations, c'est plein d'épreuves, c'est plein de souffrances, mais nous renvoie quand même dans ce monde pour une mission spécifique pour le Seigneur. Dans notre vie séculière, dans cette société, dont on ne fait plus partie, mais on le fait partie. On ne fait plus de partie de ce monde, mais il nous a renvoyés dans ce monde comme étant des extraterrestres. On vient du ciel. On est comme si on vient du ciel, comme Jésus venait du ciel. Jésus a dit qu'il n'était pas de ce monde, il venait d'en haut, puis nous autres, on fait partie d'en haut, nous autres aussi. On est des citoyens de la cité céleste. Là, il dit, faites attention, soyez prudents, c'est plein de serpents. Prudents comme des serpents, simples comme des colombes, il dit, êtes comme des brebis au milieu des loups. Qu'est-ce que ça veut essayer de faire un loup à une brebis? Ils veulent nous manger. Mais ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, parce qu'on a la protection de Dieu. Plusieurs fois, ils ont voulu mettre Jésus à mort. Qu'est-ce qui s'est produit? Jésus passait à travers la foule, puis il n'y a personne qui mettait sa main sur lui. Personne ne pouvait faire ce que Dieu ne voulait pas. Mais quand il est venu le temps, par exemple, que Jésus devait mourir, mais là, c'était l'heure des ténèbres, puis ça s'est fait. Mais avant ça, on n'a pas à avoir crainte, mais on a à être prudent, puis faire attention. Dans ce monde, Jésus... Notre ministère, il nous demande de vivre une vie exemplaire. Ouch! Dans Philippiens 2, le verset 14, il nous dit, « Faites tout sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Hey, c'est beau ce verset-là. Là, ça nous dit, Dieu t'a appelé là à servir, à être ton ministère dans cette société, dans la vie séculière, t'as à briller dans ce monde comme un flambeau. Il nous a renvoyés dans ce monde, puis tu dois briller. Puis pour qu'on brille, il y a des choses dans notre vie qu'il faut faire attention. Quand Dieu nous demande de quoi, il faut tout faire sans murmure ni hésitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le murmure?
Chioler.
À chaque fois que Dieu nous demande de quoi, on se met à chioler. Chaque fois qu'on a une épreuve, on se met à chioler. Chaque fois que Dieu nous met à cœur des choses... On fait tout en chiolant. On va à l'église en chiolant. On va à réunion avant réunion en chiolant. Ben, il y a beaucoup de personnes qui chiolent.
Pas obligé d'y aller à l'église. Si tu y vas, tu chioles pas, tu y vas.
Exact. C'est ce qu'on serait supposé.
Mais pareil.
Tu y vas, puis tu chioles pas. Tu y vas, puis tu t'essayes de trouver une joie dans ce que Dieu demande. Fais tout sans murmure ni hésitation. Hésitez pas. Tout ce que Dieu nous demande, il faut le faire avec empressement. Hésiter, c'est de marcher ses breaks. On recule, on veut pas. Puis on critique, puis on chiale, puis on se plaint. Mais Dieu veut qu'on fasse tout sans murmure ni hésitation, afin qu'on soit irréprochable, pur, irrépréhensible. Dieu a des hautes attentes de chacun de nous. Notre ministère, c'est de marcher d'une manière sans reproche, d'une manière pure, puis d'une manière irrépréhensible. C'est tous des synonymes. Mais c'est des synonymes, mais c'est quand même... Paul, il les a écrits dans ses phrases. Irréprochable, pur et irrépréhensible. Ça veut dire, faut rechercher la perfection. Faut rechercher l'excellence dans notre conduite. Pas critiquer, pas murmurer, puis chercher à être parfait. C'est ce qu'il veut qu'on cherche à être. Il dit, c'est ce que vous allez être au milieu de cette génération perverse et corrompue. Quand il dit, vous êtes plus de ce monde, mais le monde, c'est une génération perverse. Puis il dit, vous devez plus être comme eux autres. Eux autres, ils se plaignent puis ils veulent pas suivre Dieu. Ils sont une génération perverse, puis nous autres, on est sortis de là parce qu'on a voulu se convertir, on a voulu suivre Jésus, on a voulu. Maintenant, marchons dans ce chemin-là, puis continuons à briller de la lumière de la volonté de Dieu. Si on met en pratique la parole de Dieu, c'est là qu'on va briller, puis qu'on va être en plein dans notre ministère. On va être des lumières dans ce monde. Les lumières, ça a deux fonctions. Premièrement, la lumière, ça éclaire. Qu'est-ce que ça fait quand la lumière éclaire? Ça l'éloigne les ténèbres, ça l'attire les moustiques.
Il n'y a pas ça, les ténèbres.
Vrai ou faux?
Oui.
La lumière attire...
En hiver, ça
attire
pas de moustiques.
Il n'y a pas ça, les mauvais esprits.
La lumière attire, puis la lumière repousse. Mais si on agit en tant que lumière, qu'on est des flambeaux dans ce monde, ceux qui aiment la vérité vont s'approcher, puis ceux qui aiment les ténèbres vont nous fuir. Ça va créer un impact dans cette société perverse et corrompue. Il y en a dans cette gang-là qui vont se convertir, puis il y en a d'autres qui vont nous fuir, puis ils vont nous critiquer, puis ils vont nous chioler, puis ils vont essayer de nous faire du mal. Quand une personne veut briller, quand une personne veut obéir à Dieu, veut plaire à Dieu, ça crée des conflits dans les autres, puis les autres rentrent en réaction à cause des ténèbres qui agissent dans leur vie. Puis s'ils se convertissent pas, mais l'ennemi va les utiliser, le prince des ténèbres va les utiliser, puis on est témoin de ce qui est en train de se passer. On n'en parlera pas dans le micro. Il faut être prêt à accepter les souffrances de la vie de chrétien et du nom de Jésus. Dans 1 Pierre 4,15, ça fait partie de l'appel de ce ministère-là, de traverser le chemin resserré qui mène à la vie. Dans 1 Pierre 4, le verset 15, nous dit « Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Fait que quand t'es devenu un chrétien qui est un flambeau dans ce monde, là tu cherches à être irrépréhensible, pur, puis ainsi de suite. Mais là, il dit, tu vas souffrir, mais tu souffriras plus parce que tu es un meurtrier, parce que tu fais du mal, puis tu t'ingères dans la vie des autres. C'est pas pour ça que tu vas souffrir. Mais si tu souffres comme chrétien, parce que c'est ce que les chrétiens sont appelés, à passer dans le même chemin que Jésus, quand Jésus dit, prends ma croix et suis-moi, prends ta croix et suis-moi, c'est à quoi le chemin de la croix de Jésus? Ça représente à quoi? Ça représentait ses souffrances, son rejet. Comment est-ce qu'il s'est fait maltraiter, puis qu'il s'est fait crucifier sur la croix. Puis nous, il nous dit de prendre notre croix. Puis il dit, si tu as à souffrir, souffre comme étant un chrétien. Tant qu'à être un chrétien dans ce monde, vivons en chrétien, n'ayons point honte d'être chrétien, puis glorifions Dieu à cause de ce nom de chrétien. On est-tu prête à glorifier le nom de Dieu à cause du nom de chrétien, puis être prête à souffrir en tant que chrétien? C'est ça qui est le ministère de base pour tous les chrétiens, de vivre comme un chrétien, comme un flambeau dans ce monde, puis on va être lumière. Puis il y a des souffrances rattachées à ça. Il y a des efforts, il y a des fardeaux, il y a des épreuves, il y a des attaques de l'ennemi, puis du monde, puis de notre chair, mais il y a une grande gloire de faire partie de la famille de Dieu. Un jour, Dieu va nous bénir, va nous récompenser pour avoir suivi son chemin. Dieu, dans son chemin, quand on marche dans ce chemin-là, on est en train de s'enrichir pour lui, puis il nous demande d'être riches en bonne œuvre dans ce monde-là. Briller comme des flambeaux, ça veut dire aussi d'être riche en bonne œuvre. Dans Matthieu 5, 16, ça nous dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. » Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de dire qu'on est comme un flambeau dans le monde. Ça nous dit que votre lumière luise devant les hommes. Vous êtes des chrétiens dans votre vie séculière, dans votre vie dans cette société. Luisez comme une lumière pour que le monde voie vos bonnes œuvres. Il faut qu'il voie nos œuvres bonnes, puis on va s'enrichir dans ça, dans nos œuvres bonnes. Puis ils vont glorifier Dieu, notre Père, qui est dans les cieux, quand ils vont nous voir aller. Dieu nous demande de travailler de nos mains dans ce monde séculier. Il nous demande de travailler de nos mains pour pouvoir donner aux autres. Quand il nous dit de briller, là, c'est aussi de travailler de nos mains pour pouvoir bénir les autres dans cette vie séculière. Dans Éphésiens 4, 28, ça nous dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi à donner à celui qui est dans le besoin. Dieu veut qu'on brille dans ce monde. Puis là, il dit, travaillez, lâchez de voler, parce qu'il y en a que c'était le vie, ça, de voler. Lâchez de voler, allez travailler, faites ce qui est bien pour avoir de quoi à donner à ceux qui sont dans le besoin. C'est là que notre lumière va briller devant les autres. Quand on va commencer à être des personnes riches en bonne œuvre, des bonnes actions, faire des le bien autour de nous autres. Il nous dit de travailler aussi pour pas dépendre des autres. Dans notre vie séculière, il est important qu'un chrétien ait un job et qu'il travaille. Les chrétiens qui veulent pas travailler, il y a un autre verset qui dit qu'ils ne mangent pas non plus. Un chrétien doit travailler de ses mains pour amasser des biens, pour pouvoir donner dans l'œuvre, donner dans les pauvres qui sont autour. C'est de même que le monde va... Tu veux faire partie de cette société, dans cette vie séculière, faut que tu travailles. Tu n'as pas le choix. Là, j'en ramène un autre verset qui nous en parle, de travailler de nos mains. Mais il y en a plusieurs qui travaillent là-dessus, puis ça fait partie de notre ministère, puis je vais en parler dans une autre étude que je vais faire plus tard, au point de vue qu'on est administrateur de ce que Dieu nous confie. Je ne rentrerai pas en profondeur tout de suite là-dedans, mais faire partie de cette société, dans notre vie séculière, notre ministère, c'est de travailler de nos mains. Il nous dit, dans 1 Thessaloniciens 4, 11, ça nous dit... Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Tantôt, j'ai dit, travailler de nos mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Dans ce verset-là, c'est en train de nous dire de se mêler de nos affaires, travailler de nos mains, c'est biblique. Ah, ben moi, je vais aller évangéliser. Gagne ton pain. Travaille de tes mains. Si tu n'as pas une église qui paye pour te nourrir, sois pas au crochet de la société. Va te trouver un job. Tu sers Dieu en te trouvant un job, puis en servant Dieu dans la société. À travers ton travail que tu vas faire, tu vas être un témoignage à l'endroit où ce que Dieu va te placer. puis tu vas ramasser de l'argent, puis tu seras pas, tu n'auras pas besoin d'un autre pour te faire vivre. C'est ça que ça dit, pour pouvoir avoir de quoi de donner à celui qui est dans le besoin, puis tu vas travailler honnêtement envers, tu vas te conduire honnêtement envers ceux du dehors quand tu travailles, puis tu n'auras pas besoin de personne. Entre parenthèses, pour te faire vivre. Un chrétien doit être un pourvoyeur. Si tu es une personne qui est malade, qui a des handicapés, puis là, tu es sur une compensation, c'est correct. Je parle pas de ça, là. Ou si tu es dans un arrêt de travail entre deux jobs, puis tu as une période de chômage, puis tu retournes travailler après, c'est correct. Mais si une personne ne veut pas aller se trouver un job, c'est pas de Dieu. Dieu veut que dans ce monde, il nous renvoie dans ce monde, puis il veut qu'on y aille travailler de nos mains pour qu'on puisse avoir de quoi donner dans l'œuvre de Dieu, puis être un bon témoignage, puis de démontrer qu'on a une conduite honnête envers ceux du dehors, et non se laisser être au crochet de la société en étant sur le BS, ou sur le bien-être social, ou sur l'assurance chômage à l'année longue. Puis là, Dieu nous demande aussi d'être généreux dans ce monde. Dieu nous appelle à être généreux. Un chrétien doit aller travailler pour être généreux. Être riche en bonne œuvre, là, c'est d'avoir de la générosité. Quand t'es généreux puis tu donnes à un pauvre mendiant sur le coin d'une rue, surtout à Montréal, il y en a à tous les coins de rue des quêteux. Mais prévois d'avance à être généreux. Puis remercie Dieu de les avoir mis sur ton chemin. Parce qu'à chaque fois que tu aides quelqu'un qui ne peut pas te le remettre, ça va t'être remis par notre Père qui est dans les cieux. Ramasse-toi une poignée de change là dans ta main, là, prête à donner. Quand tu les rencontres, tu donnes. Ça, c'est une bonne attitude. Puis t'en rencontres trois dans trois coins de rue, donne. Sois généreux. C'est ce que ça nous dit dans la parole. Dans Luc 12, 33. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux. Hey, le trésor qu'on se ramasse quand on est généreux, là, c'est un trésor inépuisable. Ça s'épuisera pas, ça s'usera pas, puis ça se fera pas voler. Ça s'épuisera pas, c'est que tu n'arriveras jamais au bout des ressources, des bénédictions de Dieu dans le ciel, dans le paradis, dans la ville sainte, dans toutes tes richesses que tu seras accumulées sur la terre. Profite de chaque occasion pour donner à ceux qui t'entourent, puis être une personne généreuse, honnête, qui travaille, puis qui donne. Puis Dieu va te bénir. C'est beau ces versets-là. Hein? Puis, dans notre conduite envers le monde séculier, avec ceux qui nous entourent, là, dans cette société, il y a un minimum de bonne conduite au niveau de notre agissement, notre attitude, puis nos paroles. Dans Matthieu 5, 44, je vais vous lire le dernier passage pour l'étude de ce soir. Jésus, qui est encore en train de nous parler, il dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, puis fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Puis là, écoutez bien la suite. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Là, Dieu s'attend à ce que nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on apprenne à surpasser le niveau moral des gens qui nous entourent. Faut briller dans ce monde. Faut être une lumière dans ce monde. Faut être des personnes irrépréhensibles, pures, irréprochables. Mais comment que ça se traduit à part du travail puis de pas être au crochet des autres puis d'être généreux? ça se travaille, ça se traduit aussi par notre comportement avec ceux qui nous entourent. Quel comportement on va avoir quand quelqu'un nous haït? Ben, il faut l'aimer. Ça, c'est fort. Quand tu arrives à aimer quelqu'un qui t'haït, c'est fort. Faut que tu sois animé de l'amour de Dieu. Quand quelqu'un te maudit, comment tu vas réagir? Il faut que tu le bénisses. Si quelqu'un, il te hait, tu lui fais du bien. Si quelqu'un te fait du mal, puis il te maltraite, puis il te persécute, puis il te fait des menaces, priez pour ceux qui vous font ça. Faut prier pour ceux qui nous font du mal. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. On dit qu'on est les habitants du ciel, on dit qu'on est les habitants du royaume des cieux, on dit qu'on est les enfants de Dieu, mais il faut marcher comme notre Père. Dieu envoie son soleil sur les méchants comme sur les bons, puis envoie sa lumière sur les méchants, sa pluie sur les méchants et sur les bons. Puis si tu rencontres du monde, mais saluez tout le monde. C'est ce que je fais, moi. Dans l'autobus, là, je suis un chauffeur d'autobus, puis j'embarque des écoliers. Puis je suis un francophone, puis je travaille pour un des écoles anglaises. Puis je sais pas si c'est parce que c'est des écoles anglaises, là. Je sais pas pourquoi. Mais moi, chaque enfant qui rentre, j'y dis « Aïe ». Ça veut dire « Allô ». Ou « Bonjour ». J'ai dit « Hi » à tout le monde qui rentre, puis à chacun qui quitte, je lui dis « Bye ».
Oui,
c'est
affaire pas le texte.
Puis sur 40 élèves, il y en a peut-être 4 qui me disent, qui me répondent. Les autres m'ignorent.
C'est ça.
À l'année longue, tous les jours, quand ils rentrent et quand ils sortent le matin, quand il rentre et quand il sort le soir, je lui dis « hi » puis je lui dis « bye ».
Il n'a pas gros,
mais... Il n'a même pas... Il n'a à peu près 1/10 qui me répond.
Toute la gang est correcte. Bon, c'est bon. C'est pas des bébés.
C'est pas des bébés, c'est des secondaires.
Au moins, il est
c'est des, c'est tous des adolescents.
Les jeunes sont contents.
Non, Roland, ils écoutent, ils me répondent pas.
Non, c'est pas dire des bêtises, ils sont là, mais...
Mais même pas, ils disent rien.
Mais non, là,
ils disent rien. Ils me regardent même pas, puis ils se dépêchent. Ils se dépêchent à aller s'asseoir dans le banc, puis ils me répondent pas. Puis là, qu'est-ce que Dieu dit de faire? Il y a un coup, moi, j'y ai pensé, moi. Pourquoi que je lui dis « aïe » puis je lui dis « bye » si eux autres me répondent pas?
Le Seigneur, il a pas fait ça.
Mais je fais qu'est-ce qu'il me... Je me suis rappelé ce passage-là qui me dit « Si vous saluez... Juste ceux qui vous saluent, que faites-vous d'extraordinaire?
Ouais.
Dieu nous appelle à saluer même ceux qui ne nous saluent pas.
C'est ça.
Fait que tu rencontres du monde sur la rue, sur les trottoirs, à ton travail, partout où tu les côtoies, à l'église, puis le monde te répond pas, mais dis-leur salut quand même.
Ouais.
Tu es en train de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est ça que la Bible est en train de nous dire.
C'est ça.
Puis là, tu étais un fils de ton père quand tu fais ça.
Quand ils sont tous assis, là, tu te lèves debout, puis tu leur dis, j'ai dit bonjour à tout le monde, combien il y en a qui m'ont répondu, bonjour les enfants, tu leur dis.
Ben moi, je les harcèle pas avec ça.
Le père est harcelé, il va te le dire.
Je les laisse faire, puis je sais que Dieu, il me voit.
C'est parce qu'il y en a qui sont venus.
Dieu me voit, puis Dieu va me le remettre.
Ben,
puis tout ce qu'on fait, mais faut le faire pour plaire au Seigneur. Des fois, ça va nous faire de la peine de se faire maudire ou de se faire haïr. Ça va nous faire de la peine de se faire maudire, de se faire haïr ou de se faire maltraiter ou de se faire persécuter. Mais Dieu, il veut qu'on les aime, qu'on les bénisse, qu'on leur fasse du bien, puis qu'on prie pour eux, puis qu'on les salue. C'est ce qu'il nous dit dans ce passage-là. On va prier. Père, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on est rassemblés. Je te remercie pour ta parole, pour nous donner une vision, Seigneur, de cette vie séculière, de cette vie dans ce monde, que c'est un ministère pour tous les chrétiens de vivre en tant que lumière dans ce monde. Donne-nous de briller comme des flambeaux dans ce monde, qu'on puisse être riche en bonheur, puis que le monde glorifie ton nom quand le jour où tu vas les visiter. Donne-nous la force, le courage de continuer à le faire malgré que le monde ne le fait pas. Qu'on puisse prier ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous font des menaces, ceux qui nous aiment pas. On te demande de les bénir, Seigneur. Puis on te demande de leur faire du bien. Merci, Seigneur, pour les pauvres que tu mets devant nous. Donne-nous d'être généreux, Seigneur, sachant que tu vas nous leur mettre. Fait qu'on te remercie, Seigneur, pour ta parole que tu nous as donnée ce soir, pour manœuvrer entre tes mains dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.
Amen. Hein?